Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
Et si on partait ? Nous sommes aujourd'hui en ligne avec Agnès du blog Family in Jordan, ce qui veut dire une famille en Jordanie, parce que nous parlons de la Jordanie aujourd'hui, et parce que, Agnès, vous êtes partie avec mari et enfant, et les enfants à 20 mois, 5 ans et 7 ans et demi, hein, c'est pas les âges les plus faciles. Vous êtes partie vous installer en Jordanie pendant 2 ans suite à une mutation professionnelle, une histoire assez dingue. Bonjour Agnès.
Bonjour Philippe, bonjour Nathalie, bonjour Didier.
Bonjour.
Bonjour.
Une vie de famille comme ça qui se déplace d'un coup, surtout que c'était une première pour vous dans ce genre de pays qui fait, on se demande un petit peu comment ça va se passer quand même quand on part avec tout le monde comme ça. Qu'est-ce qui est surprenant quand on arrive en famille là-bas ?
Alors oui, effectivement, première expatriation en famille, c'est un choix qu'on a fait, qu'on voulait depuis longtemps. Et finalement, ce qui surprend, c'est la facilité de l'arrivée et puis aussi l'accueil. L'accueil des Jordaniens, c'est vraiment quelque chose, pourtant on avait, que ce soit mon mari ou moi, voyagé pas mal, chacun de notre côté, et l'accueil jordanien, c'est vraiment quelque chose.
Ça ressemble à
donc,
quoi
vraiment, ça ressemble à... En fait, ils ont la tradition, vu que ce sont des bédouins, donc des nomades à la base, hein, même s'il y en a très peu maintenant, ils ont la tradition de l'accueil, de l'honneur, ils se doivent d'accueillir celui qui arrivait du désert, etc. Mmh. Donc, vis-à-vis des étrangers, bah, c'est pareil. On arrive, ils ont toujours le sourire, ils veulent toujours nous aider. Alors, c'est un peu surprenant, parce que finalement ils ne nous diront jamais non, mais il y a moyen de savoir quand est-ce que c'est non quand même. Ah, voilà, leur code de l'honneur veut qu'ils ne veulent pas nous décevoir, donc ils diront jamais non. Mais si on vous répond oui, puis à la fin Inch'Allah, en général ça veut dire non.
Ah d'accord.
Inch'Allah Bokra Malesh, si Dieu veut, voilà. Demain peut-être.
Faut
c'est
le savoir.
Ça, c'est vraiment le oui peut-être, mais peut-être non en fait. Hein.
Ça veut dire non d'office.
Ben, quasiment tout le temps, ouais.
Ouais, d'accord. Et alors, les enfants, quel est le regard des enfants sur cette arrivée et des Jordaniens sur les enfants ?
Les enfants, bon, ils l'ont vécu, j'ai envie de dire, naturellement, ils étaient petits aussi, donc finalement, eux, voilà, ça arrive comme ça, il n'y a pas de problème. En plus, on arrivait la veille de la rentrée scolaire, donc finalement, on n'a pas eu beaucoup le temps de patienter, de s'impatienter, j'ai envie de dire. Après, les Jordaniens sont très, très kids-friendly, c'est un pays vraiment où les enfants sont presque les rois, et c'est un petit peu surprenant pour nous qui avons quand même, en tant que Français, une éducation un petit peu plus rigide, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vrai que si on grondait un peu les enfants, tout de suite ils arrivaient, si on était au restaurant ou quoi, ils arrivaient, non, mais tout va bien, et ils leur donnaient des bonbons, etc.
Ah ouais.
Donc voilà,
que vous êtes en train de gronder votre enfant, et il y a quelqu'un qui intervient pour dire d'arrêter.
Presque, oui, c'est presque ça. C'est plus pour dire non, mais tout va bien, parce que nous, voilà, on se dit, ah, mais on dérange, ils font trop de bruit, ils sont en train de courir entre les tables, etc. Ouais. Et là-bas, c'est non, mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Ce qui nous donne des mauvaises habitudes en rentrant. Voilà, parce que quand on rentre en France, il faut se remettre au goût français.
Alors, le problème, c'est que vous n'aviez pas la grand-mère pour faire garder les enfants sous la main là-bas.
Non, on n'avait pas la grand-mère. Alors après, bon, on a la communauté française qui fait qu'on s'entraide beaucoup. Hein. Ouais. C'est une communauté qui n'est pas énorme, donc on s'entraide beaucoup. Mais sinon, on a fini par faire venir la grand-mère, finalement, parce qu'on avait un problème de date de vacances. En fait, notre dernière était dans une école jordanienne, donc elle n'avait pas les mêmes dates de vacances que ses frères qui étaient à l'école française. Et alors, au début, elle était un petit peu frileuse et réticente. Elle nous sortait un peu toutes sortes d'excuses. « Oh, faut peut-être que je me remette à mon anglais avant, etc.
Ouais. »
Et finalement, on lui a dit « Non, mais vraiment, il faut que tu viennes, parce que là, on est embêté. » Parce que moi, je travaillais au lycée français, donc voilà. Et finalement, elle a adoré. Elle a adoré, elle a vraiment été surprise justement par l'accueil. Et l'année après, elle est revenue. Elle a dit « Moi, je suis fana pour revenir très volontiers. »
D'accord.
Donc, ouais. Ouais.
Alors, quelles étaient vos relations, par exemple, avec l'administration ou avec la police ? Comment ça s'est passé ?
Alors, nous, avec l'administration, finalement, c'était assez simple parce qu'on était dans un cadre assez organisé. Donc, on avait du monde pour nous aider. Après, les petites choses marrantes, par exemple, il fallait qu'on ait notre permis jordanien, permis de conduire jordanien. Et donc là, il y a un test visuel à faire. Et tous nos collègues sur place nous avaient dit, tu verras, ils vont te poser la question de la lettre que tu vois. Est-ce que c'est un E ou est-ce que c'est un M ? Tu vas tomber sur le E ou sur le M ? Ben, ça n'a pas loupé avec mon mari, on est tombé l'un sur le E, l'un sur le M. Donc ça, c'était assez drôle. Et puis sinon, la relation avec la police, finalement, elle est très simple et très... très fluide parce que ça se fait tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont un peu partout, que ce soit en ville, que ce soit sur les routes de campagne. Ils nous arrêtent très souvent. On s'est arrêté très, très, très régulièrement, mais c'est plus pour finalement discuter d'où vous venez et comment ça va. Il demande les papiers, moi j'ai envie de dire une fois sur cinq. Ouais. Donc voilà, c'est plus un contact qu'autre chose, mais ça peut devenir. Je sais qu'une fois j'ai fait la descente à Manakaba et c'était un samedi matin. Il faut savoir que le week-end est décalé hein, par rapport à nos week-ends, ouais. C'est le vendredi, samedi. Donc le samedi matin, c'est un peu l'équivalent de notre dimanche matin, si vous voulez. Donc il n'y avait personne sur la route, parce qu'en plus c'est jour de grande prière, donc il n'y avait personne sur la route. Donc je pense qu'en fait ils s'embêtaient beaucoup et qu'ils arrêtaient un peu toutes les voitures qui passaient.
Ouais. Ça arrive donc, un peu partout, ça, vous savez.
4 fois en 4 heures sur la descente vers Aqaba.
4 fois en 4 voilà. heures, ah oui, c'est beaucoup. Didier ?
Oui, parce qu'il faut souligner aussi que la Jordanie, c'est un pays très sûr, où il est très facile de voyager. C'est important pour les voyageurs de le savoir, parce qu'on est dans une zone avec beaucoup de violence et de conflits, mais en Jordanie, c'est très calme et on peut y voyager très facilement. Effectivement, la police joue son rôle, mais n'est pas omniprésente non plus.
C'est une sorte d'îlot extrêmement calme dans un univers particulièrement troublé. C'est assez étonnant, ça, la Jordanie.
Oui, alors c'est vrai que... Puis la sensation, comme disait Didier, la sensation qu'on a quand on est dans le pays, c'est vraiment... sécure. Enfin, voilà. À aucun moment on s'est dit, mais là, voilà, ça craint peut-être un petit peu, etc. Le fait, c'est vrai que la police finalement soit un petit peu partout, on s'y habitue. Enfin, en venant de France, au début, on peut se dire, zut, la police, je me fais arrêter, mince, parce que c'est vrai qu'on a un peu ce côté réticent en France. Tandis que là-bas, non, c'est tout à fait naturel. Et finalement, une fois qu'on s'y habitue, on se dit, ben, c'est sécurisant parce qu'ils sont là et on sait que s'il y a quoi que ce soit, ils sont pas loin. Donc, non, c'est vraiment facile. Effectivement, le voyage. On n'a aucune crainte. Ouais. Voilà. Après, on sait très bien que les Jordaniens étant à 60% palestiniens, d'origine palestinienne, voilà, sont très touchés par ce qui se passe autour. Mais ça ne se ressent pas en soi quand on est en Jordanie, quand on visite la Jordanie. C'est plutôt le côté accueil qui prime, en fait.
On n'a pas parlé du climat, parce qu'on a une vision d'un grand désert, hein, la Jordanie, qui est constituée à 75% de désert. On imagine qu'il fait tout le temps chaud, qu'il y a beaucoup de soleil, qu'il fait dur, mais c'est un pays où on peut avoir froid aussi.
Oui, alors oui, de façon assez surprenante, en fait, l'hiver, il y a un vrai hiver. Il y a un vrai hiver avec des températures, en tout cas sur Amman, dans le nord de la Jordanie, dignes de Paris. Donc, alors, ça dure moins longtemps. L'hiver va durer, on va dire, de novembre, fin novembre, jusqu'à février, mars, au plus tard. Mais comme on est en altitude, en fait, on a 1000 mètres d'altitude en moyenne sur Amman, eh bien, on a un vrai hiver avec 5 degrés, 10 degrés, voire même de la neige, ça arrive...
De la neige en Jordanie
Un an sur deux à Amman, alors c'est pas 20 cm de neige, hein, mais voilà, c'est saupoudré un hiver sur deux presque à Amman. Et sur les hauteurs de Petra, où là on est encore à des altitudes supérieures, parce qu'on va tomber dans le 1004-1005, tous les ans par contre, là il y a de la neige. Sur les hauteurs de Petra, tous les ans il y a de la neige.
Nathalie ?
Donc oui, climat surprenant finalement l'hiver. Deux belles saisons qui sont l'automne et le printemps. C'est vraiment l'idéal parce que les journées sont longues, notamment celles d'automne avant le changement d'heure. Les soirées sont très agréables. Les fleurs au printemps, par exemple, en fait, tout le nord de la Jordanie, mais même jusque dans l'Ouadi Rum, se couvre de verdure, d'herbe.
Donc c'est un pays qui, en fait,
là, c'est magnifique.
Ouais, c'est magnifique à ce moment-là. Donc c'est un pays extrêmement varié, y compris par les saisons. Et c'est un truc qu'on n'imagine pas, Didier.
Oui, effectivement, au printemps, on voit de très très belles fleurs, même effectivement. Vers le Wadi Rum. Puis il faut souligner qu'aussi que dans le désert, on peut avoir froid, parce que la nuit, dans le désert, comme il n'y a pas la couche de nuages qui va réguler la température, comme dans tous les déserts du monde, la nuit peut faire froid au printemps ou en hiver.
Et même à la belle saison, on peut zapiper, avoir un coup de frais le soir. Merci beaucoup Agnès pour rester avec nous. Hein. Surtout, on a envie de plus de Jordanie. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h midi. Et si on partait ?
Philippe Googler.
C'est le film, ça.
Ça, on aime bien ça.
Voilà.
Nathalie, une petite danse.
Écoutez, j'arrête pas de danser. Vous ne me jetez pas un regard. Alors j'en ai assez.
mais on
déjà,
danse vous
ne jetez
deux,
pas
si d'euros
non plus, d'ailleurs.
Nous sommes en Jordanie aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Agnès du blog Family in Jordan. Agnès qui est partie vivre en 2017 en Jordanie avec toute sa famille. Alors. Il faut qu'on parle quand même des paysages incroyables de ce pays. Et surtout, c'est un pays qui est assez facile, avec des très bonnes routes. Et quand on habite à Amman, la capitale, on est à une heure, par exemple, de la mer morte, que j'ai raconté un petit peu tout à l'heure. Vous avez vécu la mer morte, l'expérience est assez incroyable.
Oui, alors nous, on aimait beaucoup descendre sur la mer Morte. On y allait régulièrement avec les enfants pour deux raisons. Alors, la baignade en mer Morte, ou même la balade sur les plages de sel, et puis aussi tout ce qu'on appelle les wadis, hein, qui sont en fait des canyons très, très encaissés.
Ça, c'est magnifique, les wadis.
Qui ont de l'eau douce et qui permettent de randonner dans des canyons magnifiques qui des fois prennent des teintes vertes de végétation parce qu'il y a de l'eau douce. Et alors pour revenir à la mer Morte, effectivement nous ce qu'on aimait faire c'était descendre en fait plus bas que les plages d'hôtel, sans doute où vous avez été parce que vous nous avez parlé de maître nageur. On descendait plus bas et on allait sur les plages sauvages si vous voulez. Mais là l'avantage c'est que c'était très très beau, les plages sont blanches magnifiques. Qu'il y a des concrétions, etc.
Elles sont blanches de sel.
Ouais, c'est très très beau.
Faut faire attention, ça coupe les pieds. Hein. C'est comme des ciseaux. Hein. Faut mettre des chaussures.
Faut faire très attention. Ouais, avec notre fille, on faisait très attention parce qu'elle avait 3-4 ans, bien la prendre par la main parce que si elle tombe là-dessus, c'est coupant. Et puis une fois qu'on est coupé, la mer Morte, comme vous l'avez dit, c'est très désagréable.
Bah oui, parce que là, vous nous dites c'est beau, c'est magnifique, mais c'est dur. Ah, c'est-à-dire que c'est pas la baignade rigolote où on patauge dans l'eau. Hein. Il fait très chaud, c'est très sec, il n'y a rien à boire, il n'y a pas de petit bistrot ombragé pour se poser, le sable coupe, enfin le sel coupe, c'est magnifique, mais c'est un univers assez hostile quand même.
C'est un univers hostile. Il faut y aller équipé, en fait, si vous voulez. Voilà. Nous, on descendait avec des vieilles baskets ou des vieilles sandales, mais pas de tongs, parce que c'est trop... Voilà, on risque de se casser la figure. Mais des vieilles sandales qu'on gardait, y compris dans l'eau, pour pouvoir marcher sans se faire mal aux pieds. Ouais. Et surtout, on descendait avec notre gros bidon de 5 litres d'eau, finalement, qu'on achetait sur Amman, d'eau douce. Et comme ça, ça nous permettait, effectivement, de nous rincer tout de suite après, pour éviter les désagréments, de la peau qui tire, qui pique. Et comme vous l'avez très bien dit, ne surtout pas faire tout ce que vous avez fait.
Voilà.
C'est-à-dire essayer de nager dans une mer qui ne veut pas de vous.
Mettre la tête dans l'eau.
Il ne faut pas mettre la tête dans l'eau. Et puis on a les fesses qui remontent, on est très élégant.
Oui, c'est très drôle. C'est vraiment une vision de vous inoubliable.
On ne l'avait pas jusqu'à présent, c'est vrai, on le découvre.
Et tout ça à cause de la densité de l'eau, hein, qui n'est pas comme celle d'une mer normale. Alors, il y a un site qui est absolument magnifique, et dont vous vouliez nous parler, c'est le Wadi Daak.
Alors Wadi Daak, oui, Wadi Daak, c'est enfin on l'appelle le désert blanc également, puisque c'est un site qui est creusé, si vous voulez, une sorte de dépression dans un désert qui est plutôt noir, qui est plutôt d'origine volcanique, parce qu'il y a des volcans au nord en Syrie. Et ce wadi, donc là on n'est pas du tout dans un canyon comme les wadis de la mer Morte, on est plutôt dans un wadi type Wadi Rum ou Wadi Rabat, donc une large dépression. Et il est à la frontière avec l'Arabie Saoudite, on est à 5 km de la frontière, il ne faut quand même pas se louper, mais quand on arrive dedans, c'est tout blanc, c'est un désert de craie, si vous voulez. Donc c'est assez impressionnant, avec des falaises, et surtout c'est un ancien fond marin. Donc on retrouve plein de fossiles d'animaux marins, que ce soit des coraux, et on retrouve aussi des dents de requins.
Il y a une légende autour du nom de ce Wadi Daak, parce que ça veut dire, je crois, le Wadi souriant.
Oui, Daak veut dire souriant en arabe de la région. Et donc, c'est vrai que par rapport à l'ensemble très hostile qu'il y a, assez noir tout autour, on peut imaginer effectivement les Jordaniens, les Bédouins arrivant dans ce site et souriant de voir un petit peu cet espace très, très blanc, très lumineux.
Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle le Wadi souriant, c'est parce que quand les Bédouins arrivent, ils sourient parce que c'est beau?
Ah ben en tout cas, il sourit tout le temps. Alors en même temps, mais c'est vrai que le site vraiment porte. Enfin, c'est assez impressionnant. Ces falaises blanches. Il y a même des ça fait des formes un petit peu comme des sphinx ou des choses comme ça dans les tons blancs ocre. Donc non, c'est vraiment vraiment très sympa.
Didier, les wadis, c'est quelque chose qui est vraiment une caractéristique des déserts jordaniens.
Exactement.
Et c'est vraiment, faut imaginer, comment on peut décrire des grands canyons?
Ce sont des grands canyons. Hein. La route du roi qui borde un wadi, c'est un grand canyon. C'est extrêmement impressionnant. Par exemple, la route du roi, elle fait 1 km de profondeur quand même.
Qu'est-ce que c'est la route du roi?
Près de la route du roi, c'est-à-dire que la route du roi, c'est une route qui part du nord et arrive au sud, ou inversement. Ouais. Et donc, qui longe des paysages absolument somptueux. Donc, vraiment, il faut absolument emprunter cette route quand on va d'Amman à Kaba. Et c'est là aussi où on voit des paysages extrêmement somptueux, ces fameux wadis, on les voit très très bien là. C'est comme si la terre en fait s'écartait et s'ouvrait. C'est comme une immense faille Et c'est aussi un lieu...
C'est profond ?
C'est très profond, 1 kilomètre de profondeur.
Un kilomètre de profondeur,
oui, ouais. Tout à fait. Au
niveau c'est toujours magique et très inspirant quand on voit la nature qui fait des choses comme ça, sans la main de l'homme, c'est que voilà, ça devient spirituel presque.
Tout à fait.
On se dit, qu'est-ce qui se passe ?
C'est un pays extrêmement spirituel et biblique. Ouais. C'est sûr que...
Tout à fait. Et ce qui est de très intéressant dans ce pays, c'est que tout ça est relativement facilement accessible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire 18 heures de dromadaire, même si c'est votre spécialité, hein, Nathalie. Vous êtes obligé de vous pouvez y aller en voiture.
Oui, c'est facile.
En une heure d'Amman, vous accédez déjà à des tas d'endroits incroyables.
Parce que les routes sont effectivement très bonnes. Et c'est un pays qui n'est pas très grand, mais en même temps pas minuscule non plus. C'est l'équivalent du Portugal en termes de grandeur.
Tout à fait. Alors, il y a une cité absolument incroyable, Agnès, que vous avez sans doute visitée. C'est la cité de Petra, qui est un site fabuleux. C'est le décor d'Indiana Jones. Indiana Jones, c'est lequel ? J'ai toujours un trou de mémoire à ce moment-là.
C'est le troisième.
Le troisième, voilà.
C'est le troisième. La dernière croisade.
Comment vous l'avez ressenti, cet endroit, vous, Agnès ?
Alors ça, Petra, on a dû y aller 15 fois à peu près, forcément, dès que la famille, les amis venaient, on y allait. Moi, je l'ai découvert en fait en 2001. J'étais venue une première fois en 2001 en Jordanie, juste une semaine. Et là, c'est vrai qu'on l'a fait avec les enfants. Et voilà, c'est majestueux, c'est impressionnant parce qu'il y a tout le côté technologique, enfin, moi en tout cas, le côté technique, technologique presque, qui me vient à l'esprit, c'est comment ils ont fait pour faire ça.
Ouais, parce il faut expliquer que c'est une cité qui est quasiment creusée dans le sol.
Enfin, creusée dans la roche, dans la roche rocheuse d'un wadi, justement.
D'un wadi, voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est creusé dans le sol. C'est au fond d'un canyon.
Oui, c'est au fond d'un canyon.
Et vous êtes tout petit face à l'immensité de cette porte d'entrée somptueuse.
Ouais. Et ce qui est important de savoir, c'est aussi que c'est taillé dans le grès, et le grès, c'est une pierre qui est très tendre. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, qu'au lieu de construire des bâtiments, il était presque plus simple de les creuser.
Donc c'est troglodyte ? On peut dire comme ça ?
Troglodyte, ce sont beaucoup des temples et des grottes. Et des tombeaux, je veux dire. Et les on imagine, parce que attention, la civilisation des Nabatéens, c'est une civilisation très peu connue, qu'on a découvert uniquement au 19e siècle, vous imaginez. Donc on sait très peu de choses, mais on imagine que plutôt ils habitaient comme des bédouins et que uniquement les temples et les tombeaux étaient creusés dans les roches.
Donc comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce qui vous a frappé, Agnès, là-bas ?
La chaleur.
Elle est basique, Nathalie.
Ça dépend quand est-ce qu'on y va. Quand
il faut y aller à
6h
du mat.
Il n'est pas chaud du tout.
Il faut y aller à 6h.
Ce qui est assez surprenant, c'est effectivement la verticalité et puis l'immensité du site, en fait. Quand on y vient, qu'on y passe juste une journée, on va voir que les sites principaux. Mais quand on peut y aller un petit peu plus longtemps, là, c'est vraiment immense. Il y a plein d'accès, plein de passages qui sont pas forcément dans les guides, j'ai envie de dire, quand on arrive pour une journée. Et ça, c'est vraiment superbe. Je pense notamment à ce qu'on appelle la Bakwe, qui est en fait l'arrivée vers le monastère. Il y a deux sites principaux, enfin, il y en a plein, mais les deux principaux sites à Petra sont ce qu'on appelle le Hasne, donc le trésor, et puis le monastère Hater, qui est en hauteur beaucoup plus loin. Et on peut accéder par ce monastère par un sentier, une sorte de sentier muletier, depuis Little Petra.
Ouais.
Alors, et ça, randonnée qui est magnifique.
On va explorer Petra un petit peu plus en avant tout à l'heure avec Didier. Je voulais juste avoir vos sensations parce que c'est un site absolument majestueux. Pour moi, c'est un des plus beaux sites de la planète. On va explorer tout ça. Agnès, je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté avec vos yeux à vous la Jordanie qui vous a appelé là-bas en famille pendant plus de 2 ans. Je rappelle que vous êtes à l'origine du blog Family in Jordan et que vous préparez pour la fin de l'année un guide papier alternatif sur la Jordanie qui regroupera les visites classiques, mais surtout les randos hors des sentiers battus, parce que c'est vrai que hors Covid, il y a parfois beaucoup de monde en Jordanie, et donc ça promet d'être passionnant. Merci beaucoup, Agnès.
Merci, et puis une bonne journée.
À très vite.
À bientôt.
À bientôt. Dans un instant.